Vas-y.
Bon, donc je vais vous parler de la situation de la R&D dans Thalès. Alors j'y suis plus, je suis en retraite depuis le mois de janvier, mais je travaillais au centre de recherche de Thalès. Donc la situation de la recherche et puis par rapport au crédit impôt recherche évidemment. Donc pour situer un peu Thalès, vous allez voir que la situation par rapport au crédit impôt recherche est un peu complexe. C'est différent de ce qui se passe à Sanofi où là c'est très clair. Quelques mots sur l'entreprise qui vont expliquer pourquoi Thalès peut bénéficier, est un des grands bénéficiaires du CER, ce qui ne veut pas dire que je vais le justifier ici. C'est un groupe international avec 65 000 salariés, dont la moitié à l'étranger, et donc sur 56 pays. En 2013, un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros, avec 1 million d'euros de résultats, une R&D affichée de 20% des revenus, à la hauteur de 20% de ses revenus. On verra après que c'est la R&D, enfin c'est beaucoup de D et très peu de R. Alors, comment on peut expliquer que ce groupe est un des gros bénéficiaires du CIR, avant de donner les chiffres de ce crédit? D'une part, c'est une entreprise de haute technicité, et cette technicité est liée à ses domaines d'activité, la défense, l'espace, et ça, ce sont des cycles industriels longs et qui s'accordent bien, finalement, avec de la recherche et du développement. Après, il y a sécurité des infrastructures, transport, etc. Donc, qui sont de toute façon en pointe en ce moment. Sont aussi ces secteurs qui rendent le groupe attractif auprès des jeunes. Hein, ils sont en plus encouragés par une communication efficace. Par exemple, il y a beaucoup de communication sur les caméras Thalès Ingénieux pour le cinéma, hein, chaque fois qu'il y a des festivals, beaucoup de communication là-dessus, sur les grands instruments scientifiques comme les lasers de très forte puissance, sur les satellites, etc. Le groupe vend des systèmes, des grands systèmes qui rassemblent beaucoup de technologies. Donc il y a un réel besoin de R&D pour se différencier des concurrents. Cependant, maintenant, c'est le coût qui prend la première place pour la compétitivité, et cela on le voit, au lieu de développer en interne, c'est la sous-traitance. Le groupe entretient des liens privilégiés avec l'État. Déjà l'État est au capital pour 26%, mais il y a une interaction très très forte avec les ministères, ministère de la Défense bien sûr, mais ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a beaucoup d'échanges de postes. Quand il y en a qui perdent leur poste au ministère, on les retrouve chez Thalès et inversement, y compris les PDG qui arrivent comme ça imposés par l'État. Donc le groupe est aussi impliqué dans toutes les nouvelles structures qui sont mises en place. Je donnerai comme exemple notre ancien directeur technique qui fut président du pôle de compétitivité systématique, puis chargé de mission NanoInnov, puis président de la Fondation de coopération scientifique de Paris-Saclay, qui s'occupe de la SATT de Paris-Saclay, de l'IRT Systémique, etc. Le groupe accompagne des formations de haut niveau en participant à la définition des programmes et aux enseignements. Il y a beaucoup de salariés qui font de l'enseignement dans le supérieur, mais préfèrent le faire dans les écoles, parce que les universités ne peuvent pas s'aligner en termes de rémunération. Ça, c'est dit clairement. Bon, on finance aussi des chairs. Thalès est une des grandes entreprises qui a conservé un centre de recherche qui s'appelle Thalès Recherche et Technologie, qui sert de vitrine et qui se situe au cœur du plateau de Saclay, avec de moins en moins de chercheurs, mais qui accueille une UMR Thalès CNRS, considérée comme prestigieuse puisqu'il y a eu un prix Nobel, dont l'intérêt et le coût a été fortement contesté par les gestionnaires qui avaient été mis en place au centre à la direction du centre de recherche, mais finalement maintenant c'est stabilisé, puis en plus ça génère du crédit impôt recherche, donc c'est très bien. Il y a environ 250 doctorants dans le groupe, beaucoup de chiffres, mais évidemment tous ne seront pas embauchés. Ils ne sont pas forcément maltraités, quand ils sont embauchés, ils sont embauchés au niveau des plus grandes écoles. Mais quand ils sont embauchés, c'est aussi souvent des postes qui ne les passionnent pas, parce qu'effectivement, il y a peu de recherche. Et puis, enfin, le groupe est organisé en filiales, et donc, c'est idéal pour optimiser le dispositif du CIR, donc on dépasse allègrement les 100 millions d'euros. Alors, justement, quelques chiffres sur ce crédit impôt recherche. Déjà, un petit rappel, en 2007, hein, le PDG de Thales, qui était de Niran, qu'on retrouve ailleurs dans d'autres strates ministérielles aujourd'hui, il écrivait dans le Figaro un éloge du CIR. Hein, donc, dès le départ, le groupe s'est engagé là-dedans. Si on regarde l'évolution de 2006 à 2013, de 2006 à 2007, le groupe avait à peu près 50 millions d'euros. En 2008, ça a dépassé les 165 millions d'euros. 2009-2010, c'est revenu à 150 millions d'euros. 2011-2012, 120, 110 000, 110 millions d'euros. Peut-être qu'il y a eu des corrélations dues à des problèmes d'éligibilité parce que ça avait été fort dans certaines directions techniques. Et en 2013, ça remonte parce que maintenant, on sait très bien comment justifier ce crédit impôt recherche et construire des bons dossiers. Ça remonte à 130 000 euros. Donc, pour obtenir tout ça, il y a un fort lobbying en amont et un gros travail effectué à l'intérieur du groupe pour justement préparer les dossiers et limiter la contestation lors d'éventuels contrôles fiscaux. Il y a un pilote pour le groupe qui travaille beaucoup avec les ministères. Il y a des guides, enfin, etc. Par contre, dans la même période, la recherche et développement autofinancé du groupe, donc ce qui n'est pas financé par des contrats, par des subventions, n'a pas progressé. Ça plafonne autour de 5%. Et si on regarde d'où provient le CIR, en fait, il provient beaucoup plus de la R&D effectuée sur des contrats déjà subventionnés que sur de la R&D autofinancée. Ainsi, ce CIR compense les dépenses qui sont associées à des projets partiellement subventionnés. Alors l'intérêt, c'est que ces projets, souvent, ils sont intéressants, mais ils ne sont pas toujours stratégiques pour l'entreprise. Hein. C'est comme dans le public, dans le centre de recherche en particulier, hein, c'est la course au financement, il faut trouver des projets pour financer les travaux de recherche. Mais il y a un petit hic, c'est qu'on a des sujets qui sont parfois quand même très défense. Donc la couleur kaki, elle n'est pas tellement aimée, ni à l'ANR, sauf qu'il y a un petit appel particulier, mais ni à l'Europe. Donc on est obligé de faire des projets qui sont un peu éloignés de ce qu'on cherche réellement. Et donc finalement le groupe dit tout ça c'est bien, mais heureusement qu'on peut récupérer de l'argent du crédit impôt recherche parce qu'on finance des choses qui nous intéressent qu'à moitié. Le centre de recherche a vu sa situation devenir moins critique depuis qu'il y a du crédit impôt recherche, parce qu'il avait été question de le supprimer, ça coûte cher, ça sert à rien. Donc du coup, le financement interne étant amélioré, ça va mieux. Mais ses activités donc, et sa survie sont très largement liées au CIR. En fait, le centre de recherche contribue assez peu au CIR, de 7 à 8 millions d'euros. Mais son budget total est maintenant très largement couvert par le CIR. Hein. C'est un budget d'autour de 60 millions d'euros. Quand on en touche 150, ça ne coûte plus grand-chose. Les investissements en gros matériel sont revenus aussi, parce qu'ils sont éligibles au crédit impôt recherche. Mais par contre, les effectifs, eux, n'ont cessé de croître. De décroître, pardon. Quand même. l'effet du CIR a donc limité les dégâts, mais on ne sait pas démontrer un accroissement des activités de recherche à la hauteur de l'aide reçue, ni dans le centre de recherche, ni ailleurs. Par contre, il a été un petit peu plus facile de reprendre des doctorants. Alors, si on regarde comment évolue la recherche dans le groupe Thales, en dehors du centre de recherche, il y a une réelle innovation, hein, on ne peut pas le nier, mais c'est du développement, quasiment pas de recherche. Il y a toujours une présence d'ingénieurs très motivés, toujours prêts à proposer des idées. Il se trouve que la structure du groupe fait que même s'il y a un poids fort de la hiérarchie, les gens ont toujours la possibilité de s'exprimer. Ça plaît pas toujours, mais bon. Et ces ingénieurs-là, ils sont souvent très frustrés. Les partenariats avec les laboratoires académiques sont devenus essentiels, pas seulement en France, partout dans le monde. Et ça va rejoindre la dernière présentation qui a été faite ce matin, parce que, en fait, on va mettre des laboratoires de recherche là où il y a des clients. Hein. Il faut répondre directement aux besoins des clients. Hein. Et on va faire de la veille technologique, détecter les pépites, hein, sous-traiter des études à retombées immédiates. Donc, en France, le CIR assure un faible coût à cette stratégie d'externalisation de la R&D. Les chercheurs, du coup, centre de recherche se transforment en chargés d'affaires. Ils sont évalués non plus sur leurs compétences scientifiques, mais sur leur capacité à ramener du financement. Il leur est maintenant, d'ailleurs, recommandé non plus de faire de la recherche, mais d'innover sur les services, parce que ce sont ces services qui sont rentables, sur des logiciels qui vont permettre d'optimiser les matériels existants et de baisser leur prix. Et donc, en particulier, il n'y a plus de remplacement des départs en retraite pour les gens qui travaillent dans le domaine du matériel. Alors, sur l'évolution, il y a donc création de plus en plus d'autres centres de recherche technologique hors de France, en plus de ceux qui existaient déjà au Canada, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, associés à des universités. Une forte montée en puissance de Singapour, du fait que les marchés pays émergents ils se situent aussi par là. Donc l'objectif étant de développer les compétences hein, dans les pays où se trouvent les nouveaux marchés, bien sûr. Mais jusqu'à présent, s'il y a encore un centre de recherche et s'il y a encore du développement en France, c'est aussi grâce au CIR qui a limité cette délocalisation. Dans le cadre des projets partenariaux, il est de plus en plus souvent fait appel à la sous-traitance de start-up et de PME. Il faut dire que dans ce cas-là, si le groupe garde la maîtrise des études, ce ne sont pas ces petites entreprises qui vont récupérer le CIR, mais c'est le groupe. Et donc, ces petites entreprises sont chargées de développer les éléments innovants. Le rôle de Thales serait dû alors à la coordination des projets, à la définition des spécifications, à la validation et à l'intégration de ces briques développées dans un grand système qui, lui, sera valorisé. C'est ce qu'ils appellent l'innovation collaborative, hein, qui, effectivement, correspond bien au métier de systémier de Thales. Donc, si l'intérêt pour le groupe n'est pas discutable, et si ces travaux qui contribuent fortement au CIR constituent bien du développement, la recherche, elle n'existe pas à ce niveau-là dans le groupe. Et dans ce cadre, les transferts de technologies depuis la recherche, qu'elles soient internes ou externes, grâce à des partenariats, sont principalement dirigés vers des PME qui vont, elles, prendre les risques de la phase intermédiaire. Et donc, là aussi, il y a beaucoup de liens avec les SATT. Donc, pour conclure, on peut dire que dans Thales, la R&D et l'innovation ne s'accompagnent pas d'une politique ambitieuse. Hein, ça ne joue pas du tout sur le développement industriel. En fait, l'expertise technique et scientifique qui devrait être la source de compétitivité implique le maintien d'une R&D de haut niveau. Or, la stratégie se limite à l'obtention d'une profitabilité supérieure à 10%. Tout le groupe est mobilisé pour ça, le centre de recherche aussi. Donc tout ce qui est recherche, mise au point de prototypes et développement sont de plus en plus externalisés. Et donc, en quoi cette stratégie qui ne développe pas l'emploi, mais seulement la prime des actionnaires, mérite-t-elle des subventions publiques? Ça, c'est la question que l'on se pose.
Peut-être t'embrayer. Je te demanderai
mon frère.
Oui, on embraye et puis après. Donc.